Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et comme tous les jours entre 11h et midi, nous commentons l'actualité, cette actualité marquée évidemment par le coronavirus avec aujourd'hui pour débattre et réagir à l'actualité, Alexis Poulain, bonjour, vous êtes journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, bonjour à vous, vous allez bien ?
Bonjour. Bah, très bien, très bien. Et vous, Valérie, ça va ?
Bah, très bien, je vais bien, je vous réponds à tous, je vais bien. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, bonjour Pascal.
Bonjour Valérie.
Tout va bien aussi ?
Très bien, je vous remercie. Oui, tout va.
Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental, je vous pose la même question, Jean-Luc, tout va bien ?
Tout va bien, merci, j'espère que tout le monde va bien aussi.
Pour les gens écoutez, qui nous écoutent. Visiblement, oui. Et Sophie de Menton, bonjour Sophie, vous allez bien ?
Bonjour. Je vivais momentanément bien avec un coronavirus au foyer, donc j'attends. Ah.
Bon, oui, vous avez effectivement quelqu'un qui est touché par le coronavirus. Voilà. On va parler du relâchement du confinement. Ça fait une semaine qu'on en parle. Moi, je sais que j'étais assez indignée par ce mot de déconfinement qui, à mon avis, a marqué les esprits. Les Français sont-ils indisciplinés ? Est-ce qu'il faut augmenter les amendes ? Que faut-il faire ? Comment faire passer ce message qu'il faut rester chez soi, même si parfois il y a des situations difficiles ? Je voudrais qu'on parle des EHPAD. Avec une gestion calamiteuse dans certains d'entre eux, en particulier à Clamart et à Mougins. Il y en a d'autres, alors ils font ce qu'ils peuvent, mais on peut s'interroger parfois sur les propriétaires de ces EHPAD. Est-ce qu'ils ont vraiment mis en place les mesures qu'il fallait ? Et puis on parlera de la volte-face du gouvernement à propos des masques qui ne servaient à rien il y a quelques semaines et qui d'un seul coup sont devenus, selon l'Académie de médecine, indispensables. On va parler de tout ça avec vous. Commençons avec notre petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention. Alexis, commençons avec vous, Alexis Poulain.
Alors moi, c'était le discours de la reine hier soir, qui est une leçon de communication politique pour tout le monde. Elle a dit à peu près la même chose qu'Emmanuel Macron, mais elle l'a bien dit. C'est-à-dire
en
qu'elle a
minutes.
Appelé à l'unité, qu'elle a parlé de résilience. En 4 minutes, c'est court, c'est bien emballé, c'est rassurant, ça parle de lendemain qui chante et de responsabilité. Il n'y a pas de discours martial, il n'y avait pas de décor avec les tentes militaires derrière. Et mine de rien, 4 minutes, en fait, c'est simple, hein, il faut faire court, il faut juste être concis et faire court. Et il y avait ce matin d'ailleurs des échos des spécialistes de la com du président français qui s'inquiétaient en fait de la mise sur orbite de Jupiter, qui est complètement déconnectée en fait du discours médical, qui est très pragmatique, qui est en train de rassurer, et lui qui est parti dans la tangente guerrière qui marche pas du tout au final. On se rend compte que c'est un discours qui fait flop, et donc on voit que à vouloir trop faire de com politique, ben on s'enlise dans n'importe quoi. En temps de crise, il faut aller à l'essentiel, il faut juste être un bon gestionnaire, assumer ses erreurs aussi, et c'est pas finalement les longs discours en fait qui rassurent ou les emphases sur la guerre contre un ennemi invisible. Ça inquiète tout le monde et ça ne dupe personne sur cette rhétorique là. Donc voilà, 4 minutes pour dire soyez unis, soyez responsables, et c'est important parce qu'effectivement les beaux jours arrivent, et voir que les gens commencent à se déresponsabiliser en disant bon, finalement ça va mieux, le plateau est là, donc au pire si tu le chopes, les urgences pourront m'accueillir. On sent un peu de laisser aller.
On va y revenir.
Juste, faut faire court, mais comment ces émissions en cassant le président de la République, ça fatigue tout le monde. Moi, je trouve que je n'en peux
plus. Lisez. Je parle de communication politique.
Sophie, lisez.
On a bien compris qu'il n'était pas bon, qu'il était nul, qu'il faisait des. On a bien compris que rien n'allait. Ok, moi j'adore la reine d'Angleterre, donc je suis très contente. À ce moment-là, on peut dire que le Premier ministre, lui, effectivement, est très bon. Mais surtout, ce n'est pas le sujet. Est-ce qu'on peut essayer d'être un peu positif ?
Oui, mais lisez le papier du Parisien aujourd'hui auquel faisait allusion Alexis Poulain. Il est assez dramatique pour le président de la République parce que son entourage très proche est assez désespéré du comportement.
Ouais,
c'est calamiteux en disant que c'est un président qui aime se déguiser. C'est de l'entourage très très proche. Oui, qui veut intervenir ?
Parisien, aujourd'hui,
dimanche,
je suis très mieux.
Alors, Sophie, ne parlez pas sur tout le monde. Sophie, attendez et à tous, je vous demande d'attendre que je vous donne la parole, sinon c'est une cacophonie, on ne s'entend pas.
Exact.
Alors, qui veut parler ?
Jean-Luc.
Pascal Bataille. Jean-Luc Benamias, bon. Oui.
Non, juste un rajout par rapport à ce qu'a dit la reine d'Angleterre hier. dans son discours. Hein. 4 minutes, je trouve ça très bien, moi. Et deuxièmement, elle a bien parlé de « on n'est pas en guerre ». Elle a fait référence justement à des périodes, puisque cette dame est quand même relativement âgée, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a fait référence à des espaces de guerre réels qu'elle a vécu. Eh bien, on n'est pas en guerre. Non, on est... Quel est l'ennemi ? L'ennemi, c'est le coronavirus. Cet ennemi, il est partout. Il n'est pas humain. Donc, à ce niveau-là, je trouve ça très bien aussi de rappeler que on a un combat. C'est sûr. Ce combat est d'être solidaire de manière internationale. Elle l'a aussi rappelé. Voilà. Je voulais juste rajouter ça.
Oui. Oui. Alors, vous m'avez. Alors moi, vous voyez, j'ai ma tasse. Si vous nous suivez sur Facebook, Keep Calm and Carry On, qui était un slogan du gouvernement anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà à l'époque, c'était effectivement ce message qui était passé par le gouvernement britannique, qui était destiné à relever, aider le moral de l'opinion britannique. Et donc c'est un peu la devise des Anglais que je trouve plutôt pas mal, c'est-à-dire gardez votre calme et avançons et regardons vers l'avenir. Alors Sophie, je vous redonne la parole. Donc la une du Parisien d'hier a beaucoup fait réagir. Effectivement, je vous écoute. Sophie ?
Avant de donner des... Oui, je suis là. Vous m'entendez ?
Oui, je vous écoute.
Je suis là. Je disais que avant de donner des sons de communication, car c'est bien une question de communication, et on peut préciser évidemment que malgré toute l'admiration que je voue à la reine d'Angleterre, ce n'est pas elle qui a fait le discours. Ils sont d'ailleurs tous très bons, les discours de Winston Churchill.
Parce que vous croyez qu'Emmanuel Macron et Edouard Philippe font tout seuls leur discours?
Oui, ben je pense, alors je me trompe complètement, je pense qu'Emmanuel Macron en fait beaucoup plus que ce qu'on lui donne. Mais,
mais ce n'est pas le propos.
C'est pas le propos. Alors, reparlons du Parisien dimanche qui donne des bons points. Et hier, j'ai acheté donc le Parisien dimanche et j'ai vu 4 personnalités tout à fait estimables comme Thierry Breton, Jean Jouzel, Yasha Munk, Axel Kahn. Et ils racontent le monde d'après. Et j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une forme de lassitude. Pourquoi est-ce que ces 4 hommes qui racontent le monde d'après?
On est tous d'accord.
Je veux dire que on a honnêtement des femmes largement aussi compétentes. Et en plus de ça, je pense que les femmes, outre la compétence qui est égale, elles ont aussi une façon beaucoup plus pragmatique et de bon sens de voir les choses. Et j'ai été quand même choquée de voir des hommes du siècle dernier aussi, qui nous racontaient sur deux le monde d'après. Dommage, le Parisien peut se donner à lui-même une leçon de communication avant de donner forcément des mauvais points à Macron.
Oui, c'est pas des mauvais points, ils font aussi leur boulot, ils informent, ils font des enquêtes, c'est pas eux qui disent Macron est mauvais ou pas. Ils sont allés, leur journaliste est allé interroger des gens de l'entourage d'Emmanuel Macron qui ont donné leur avis. Ils auraient très bien pu dire qu'il était formidable. Alors il se trouve que les gens dans cet article disent que il faut rappeler que le directeur de la rédaction du Parisien s'est excusé, a dit que c'était une erreur regrettable, que c'était une maladresse. Bon, on va
Il s'excuse, bien sûr, on comprend. J'ai même pas besoin qu'il s'excuse. Ce qui est très intéressant, c'est le réflexe.
Je suis d'accord avec vous.
Oui, c'est ça, voilà. Sûr qu'il l'a pas fait exprès. Tout d'un coup, il s'est dit quelle horreur, sa femme l'a engueulé, pas tout, quoi. Mais je veux dire, le réflexe.
Allez, coup de cœur pour Jean-Luc Benhamia. Soyons positifs.
C'est un coup de cœur. Alors évidemment, il est un peu décalé, enfin pas légèrement décalé. Oui, c'est le coup de cœur sur l'espace de la biodiversité aujourd'hui qui reprend ses droits. Alors je pense, en tant que Marseillais, évidemment à l'espace des Calanques de Marseille où on découvre maintenant que le thon revient très près des côtes. On voit l'ensemble des animaux marins revenir très près des côtes. On voit les oiseaux et ainsi de suite. Voilà. Alors je dis que c'est décalé parce que bien évidemment que je pense aux gens qui se promènent évidemment régulièrement, et ils ont raison, hors confinement dans l'espace des Calanques, je comprends très bien tout cela, bien évidemment j'en suis. Mais voilà, clairement on voit que l'espace de la biodiversité reprend très très vite ses droits. C'est intéressant.
Ouais. Oui, ben il y a des canards dans Paris, pareil, également, qui
exactement,
se baladent,
oui,
donc, qui sont
ça,
sortis
oui,
des quais, et qu'on a vu revenir effectivement des dauphins, qu'on a vu beaucoup de choses. Vous avez raison pas à Paris, non. mais il n'y a pas de Paris. Voilà. Pascal Bataille, vous devez être confiné dans le sud-ouest, puisque vous habitez là. Vous n'êtes pas un Parisien qui avait fui. Voilà. Vous habitez là-bas. Vous n'avez pas vu revenir des pangolins dans le sud-ouest.
On n'a pas vu revenir encore de pangolins. On a vu revenir beaucoup de Parisiens ce week-end, en revanche. Et ça a évidemment généré une grosse contestation locale. Et on a vu revenir, pour renchérir sur ce que dit Jean Jean-Luc aussi, des biches et pas mal d'animaux qui se promènent en toute liberté dans les rues. Malheureusement, il faut redouter que ça ne survive pas au déconfinement, mais en tout cas, c'est des spectacles pour le moins agréables et ça fait partie des quelques effets positifs, on va dire, et sur lesquels il faudra peut-être réfléchir de ce virus et de cette crise. Je ne vais pas renchérir sur ce qu'ont dit Alexis et Jean-Luc tout à l'heure sur les problèmes de communication. Je voulais un tout petit coup de cœur pour cette start-up bretonne. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en parler, Valérie, parce que je sais que vous écoutez le plus régulièrement possible, mais une start-up bretonne qui a mis au point, apparemment, un test de dépistage du virus extrêmement rapide. C'est son intérêt d'ailleurs, c'est qu'en quelques minutes, il permet de lire le résultat et de savoir si la personne donc est porteuse ou non. C'est une start-up qui s'appelle.
C'est un test sanguin ou un test
C'est un test sanguin, une petite piqûre au bout du doigt, une goutte de sang permet de faire le test. Alors j'ai lu ça dans West France vendredi dernier et écoutez, je pense qu'il faut essayer de se féliciter d'abord de parce qu'on critique beaucoup la France et les Français et notre gestion de la crise à juste titre, hein, mais il faut se féliciter aussi du fait qu'on puisse être innovant et en pointe sur la recherche. Ça permet aussi, donc cette start-up, elle a besoin d'être aidée parce que malheureusement, elle a aujourd'hui, donc si ce qui est écrit West France est vrai, elle a le moyen de dépister très rapidement. Maintenant, elle n'est pas en capacité de produire. Voilà, et donc, va se poser évidemment le problème des moyens à accorder à des entreprises de ce genre pour pouvoir passer de la phase, je dirais, de test à la phase industrielle de production pour qu'on puisse tous bénéficier au plus vite de ce genre de test. Ouais. Parce que ça, c'est quand même l'un des vrais problèmes désormais.
Bien sûr,
c'est le dépistage.
Les masques et les tests. Et le dépistage, voilà. Absolument. Ouais. Mais là, on rentre dans une autre problématique parce que j'ai eu, moi, plusieurs personnes, et je crois que Sophie, vous pouvez en parler, sur l'incroyable complexité administrative, la non-réponse des ARS. Enfin, il y a une lenteur qui fait que des gens qui travaillent, qui mettent au point des tests comme cela, n'arrivent pas à se faire entendre. Sophie, je crois que vous avez, vous, une expérience dans ce domaine.
Tout à fait. À Ethic, on a essayé d'intervenir tout de suite. Il fallait que nos entreprises commandent des masques. Il fallait savoir ce qu'on pouvait faire. Il fallait déjà penser aux tests pour la reprise parce qu'on va reprendre nos salariés, mais il faut d'abord les tester. Et donc, on est allé dans tous les sens, y compris avec les ministères. Je connais cette start-up bretonne dont m'a parlé d'ailleurs Alain Madelin, qui est tout à côté de chez lui. Elle n'a pas les moyens. Elle peut sortir, je ne veux pas faire dire de bêtises, mais faire très peu de tests par jour. Et on est dans un délire. Et je vais vous dire, Alexis Poulain, si moi, j'avais vu une colère épouvantable à pousser, même maintenant et après, on a une seule solution en France, c'est la réforme de l'État, c'est faire sauter sa technostructure. Oui. Aujourd'hui, il y a en particulier...
On est bien d'accord.
On est d'accord. Ouais. Alors, ça va. Aujourd'hui, je l'ai envoyé à.
Oui, vous m'avez envoyé, Sophie. Oui. C'est incroyable. Un document, donc c'est un formulaire de ministère de l'Action des Comptes Publics. Je suis une entreprise, je veux importer des masques. Étape 1, je n'ai pas l'habitude d'importer. Étape 2, suis-je soumis au principe de réquisition? Enfin, il y a comme ça un nombre de pages, de situations qui sont d'une complexité invraisemblable.
Je crois très honnêtement, Sophie, ce qui est très grave, c'est que nos hommes politiques ne gouvernent pas leurs administrations. Ouais. Je veux dire que ils sont évidemment que c'est pas Macron ni le Premier ministre ni même un ministre de ce ministère-là. Je pense qu'il n'arrive pas à arrêter la production administrative. Ouais. Nos boîtes ne peuvent pas exporter les masques quand elles en fabriquent, ne peuvent pas importer des masques, ne peuvent pas faire des tests. Ouais. Les tests, c'est épouvantable. Nous avons des lois de l'État.
Oui. La réalité aussi des choses, c'est que des entreprises, on l'avait vu avec les gens d'LVMH, ont pu commander des masques très vite parce qu'ils ont une rapidité de commande et de paiement que n'a pas l'État. Donc c'est pour ça que les entreprises, les grandes entreprises, se sont substituées à l'État dans de très très nombreux cas. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de nos EHPAD. Appelez-nous, j'ai envie d'entendre vos témoignages. 0826 300 300, si vous avez des proches en EHPAD, de nombreuses personnes. Alors il y a plusieurs problématiques. Il y a la gestion qui a été faite au moment de l'apparition du Covid et puis aussi ce confinement imposé, et certaines personnes âgées se meurent du confinement et non pas du Covid. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
On est avec vous jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. On va parler du relâchement de du confinement. On va également parler de ces masques qui, d'un seul coup, sont devenus beaucoup plus importants. Mais je voulais qu'on commence avec ce qui se passe dans les EHPAD, dans certains EHPAD. Alors, la situation est extrêmement compliquée, évidemment, à gérer. Et évidemment que l'idée n'est pas de jeter l'opprobre sur tous les salariés des EHPAD qui font énormément de choses, mais plutôt sur ceux qui sont propriétaires des EHPAD. Quand on sait combien coûte une place en EHPAD, on peut être étonné du manque de moyens parfois, et je pense à l'EHPAD de Clamart ou à celui de Mougins où il y a eu des morts et où rien n'a été visiblement mis en place. Il y a l'histoire qu'a raconté cette, vous l'avez peut-être vu au journal, au journal de France 2, où la direction de cet EHPAD a maintenu à Clamart qu'il n'y avait pas de cas, et en fait Hermine, 96 ans, a été contaminée par le Covid sans que personne ne s'en aperçoive. Sa petite fille s'est mobilisée, a réussi, je vous fais l'histoire assez courte, à faire sortir sa grand-mère pour l'envoyer à l'hôpital, mais elle a constaté quand il y avait des Skype que le personnel n'avait aucune protection, qu'ils étaient à 3 cm du visage, que le personnel n'était pas assez nombreux, l'infirmière toute seule pour 4 étages, plusieurs patients présentent des fièvres, notamment à l'étage de sa grand-mère, c'est ce qu'elle raconte, le personnel est débordé, la directrice dit mais non, je peux vous certifier qu'aujourd'hui tout le monde porte un masque, or elle s'est bien rendue compte que tout le monde n'avait pas de masque, des aides-soignantes ont été, donc il y a eu un déni en particulier, donc c'est le groupe Corian qui gère un certain nombre d'EHPAD et qui visiblement n'a pas pris les mesures qu'il fallait, et en plus juste comble de l'horreur, donc sa grand-mère hélas est décédée, Hermine est décédée le 1er avril, et elle a reçu un coup de fil, le 2, en lui disant « Votre grand-mère dort ». Et puis après, elle en a reçu un autre, un mail en lui disant « Toutes nos condoléances, votre grand-mère est décédée. Et en gros, je vous fais parvenir la facture, ne tenant pas compte du décès de votre grand-mère ». Enfin, je voulais vous raconter cette histoire. Et j'aimerais bien que le groupe Corian nous appelle pour nous raconter comment ces affaires ont été réglées, parce que je trouve ça absolument scandaleux. Alors, je vous laisse la parole. Qui voulait intervenir ? Alexis Poulain ?
Ouais, moi je veux bien parce que je suis en train d'enquêter avec quelqu'un qui travaille dans les pompes funèbres dans le 93, qui m'a dit des choses affreuses dans les EHPAD, notamment le fait que quand ils sont appelés pour chercher des corps, il n'y a pas du tout de sortie particulière, c'est-à-dire qu'ils passent au milieu des autres résidents avec des sacs mortuaires ou des cercueils, ça dépend des cas, mais généralement c'est des sacs. Et donc en termes de contamination, en termes de choc pour les autres résidents, enfin il y a vraiment un mépris. De la personne âgée dépendante aujourd'hui, le fait qu'elle soit seule, qu'on puisse pas leur rendre visite, qu'elle soit seule dans leur dernier moment, mais aussi dans la façon dont on gère aujourd'hui les corps, c'est scandaleux. Alors je veux bien qu'il faut faire attention, bien sûr, c'est d'abord les précautions sanitaires d'usage, mais c'est quand même inhumain ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que moi j'ai autour de moi beaucoup d'amis qui ont perdu des grands-parents, ils ont pas pu leur dire au revoir, ils ont eu exactement la même communication avec l'EHPAD, c'est-à-dire rien, et puis ah bah il est mort, et puis l'enterrement qui n'est pas possible en famille, enfin ouais. c'est ça va faire des marques, ça va rester longtemps, et je pense qu'il faut réfléchir aussi à trouver un moyen humain de faire les choses. Alors c'est pas des tablettes non plus pour faire un dernier Skype, ça va pas marcher non plus, mais c'est un lourd prix qu'on ne voit pas encore. Les familles vont être vraiment marquées par cet épisode tragique.
C'est vrai, Alexis, c'est insupportable, on a le cœur serré quand on entend ça. Je voudrais quand même dire
c'est
que...
C'est pas le cœur serré, c'est de la colère, Sophie.
Non, alors attendez, je continue, maman est morte dans un EHPAD, j'ai vu la qualité exceptionnelle des gens, la façon dont ça s'est passé. Je veux dire, on peut pas généraliser. D'abord, je voudrais quand même rappeler que ce sont des gens volontaires. On nous dit tous, restez chez vous, ne bougez pas, on file des amendes. Et il y a des gens qui sont dehors et qui bossent et qui n'ont pas de masque. Mmh. Okay. Pourquoi ils n'ont pas de masque? Parce qu'ils n'arrivent pas à en commander. Moi, ma colère, elle est là. Et je voudrais tirer mon coup de chapeau à tous les gens qui sont dans les EHPAD. C'est horrible. Pour eux aussi, c'est insupportable. Et je crois qu'ils font super.
C'est ce que j'ai dit en préalable. C'est pas eux. C'est la direction des EHPAD que je vise.
Oui, mais même la direction,
c'est les propriétaires de ces groupes.
Je connais bien. Oui, alors on peut remonter au propriétaire, c'est toujours le sale capitaliste qui a tort, c'est vrai. Mais au-delà de ça,
Vous avez une infirmière pour quatre étages, il y a un problème.
Moi, j'ai le syndicat de qui adhère à Éthique là-dessus. C'est désespérant. Il n'y a pas de gens à recruter pour travailler dans les EHPAD. Le directeur d'une maison de retraite, cherchez, si vous savez, c'est pas assez payé. Et en temps normal,
il faut payer déjà, peut-être un petit peu plus, Sophie.
Mais oui, il faut payer un peu plus. Je suis d'accord avec vous. Mais au-delà de ça, c'est pas un boulot marrant. Excusez-moi, c'est très dur comme boulot. C'est qu'il faut une attention, une humanité qui est. Il faut une vocation.
On est d'accord.
C'est pas la question. Écoutez, on va prendre un auditeur. On a Julien en ligne qui voulait témoigner. Bonjour Julien.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Mon témoignage. Ouais, bonjour. Je voulais témoigner parce que moi, je suis aide-soignant. Vacataire, donc je tourne dans beaucoup d'endroits, notamment beaucoup d'EHPAD. Et j'étais encore hier dans une EHPAD. Et en fait, la grosse problématique qu'on a par rapport à la propagation du virus dans les EHPAD, c'est que les résidents, passé un certain âge, ils ne veulent plus rien comprendre. Ils ont leurs petites habitudes, ils sont seuls, ils crèvent de solitude parce qu'ils ont plus de visites. Et ça, c'est dramatique pour eux. Et donc, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller voir leurs voisins de chambre et ils vont enlever leur masque parce que ça les gêne, ils n'arrivent pas à communiquer entre eux. Et la vraie grosse difficulté, c'est elle vient de là aussi, elle est là. Et pour nous, les soignants, c'est on passe notre vie à courir après les résidents pour leur expliquer, mais on peut leur expliquer, mais il faut leur expliquer 20 fois dans la journée parce qu'ils oublient très rapidement. Des maladies basiques, ils vont avoir des petits oublis comme ça, naturellement, et pas forcément diagnostiquer Alzheimer. Et donc, du coup, c'est vraiment une vraie complication. Et deuxième complication, elle est liée aussi effectivement au manque de matériel, parce qu'on a des masques chirurgicaux qui sont très bien pour protéger les autres, mais si les résidents ne les portent pas, ces masques-là, ils sont complètement inutiles. Enfin, c'est très difficile de.
Mais est-ce que les gens sont testés dans les EHPAD? C'est-à-dire,
absolument pas. Malheureusement, non. Les soignants ne sont pas testés. On a juste une prise de température quand on rentre dans les EHPAD, voir si on n'a pas de fièvre. Mais malheureusement, beaucoup de soignants sont malades asymptomatiques. Et comme il manque beaucoup de personnel et que là, ils demandent beaucoup de renfort, donc du renfort, c'est du personnel qui vient de l'extérieur, qui est probablement porteur asymptomatique, c'est très difficile de savoir. Il faudrait vraiment un test intégral de tous les soignants. Ça, je pense que c'est impératif. Parce qu'on a des soignants qui sortent d'une unité Covid, qui vont le lendemain dans une maison EHPAD, il y a un moment donné, enfin, pour être réaliste, il y a un problème.
Ouais. Merci de votre témoignage. Et c'est vrai que certains auditeurs me font remarquer que le problème, en fait, il y a le Covid, mais il y a aussi des tarifs qui sont très élevés et avec du personnel qui ne suit pas. Oui, Pascal, c'est Pascal qui veut intervenir.
Je veux bien intervenir, effectivement, parce que cette question des EHPAD et des tragédies, effectivement, humaines qu'on y observe ne fait que pointer un bilan qu'on connaissait plus ou moins, même si on le laissait sous le tapis, qui est effectivement la gestion globale des personnes âgées dans notre pays. Et j'en veux pour preuve aussi la façon dont les personnes âgées ont été traitées par obligation, malheureusement, dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on a fait du tri ces dernières semaines. On a fait du tri et on a volontairement, parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire, décidé de ne pas soigner des personnes au-delà d'un certain âge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, qui est 6e, 7e, 8e puissance mondiale, on n'est pas capable de dire que toutes les vies se valent. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire des choix entre deux personnes. Tout ça parce qu'effectivement, on va revenir à l'impéritie de nos gouvernements précédents et de celui-ci aussi. Et quand je vois ce week-end, pardonnez-moi, de repousser encore un coup de gueule, n'en déplaise à Sophie, les propos tenus par le directeur de l'agence santé du Grand Est, qui continue d'aller dans la politique de suppression des lits et qui annonce qu'il n'y a pas de raison de ne pas supprimer les 174 lits au CHRU de Nancy qui étaient prévus en amont de cette crise. Ça veut dire qu'on n'apprend pas, ça veut dire qu'on continue effectivement dans cette ligne de sacrifice de la santé notamment de nos personnes âgées, parce que EHPAD, ça prouve que le privé n'est pas forcément mieux que le public, cette gestion-là, mais dans le public, le gouvernement, l'État n'a pas assuré sa mission régalienne depuis des années de préserver cette notion indispensable, fondamentale, qu'est la santé.
Oui, absolument.
Jean-Luc.
Jean-Luc. Alexis. Jean-Luc, n'a pas parlé,
Oui, exactement. Bon, je veux pas faire un cas personnel, mais ma mère est en EHPAD dans le 93 à Pantin. Elle a 88 ans. On est bien sûr dans moi je reproche pas à la direction de cette EHPAD vu de loin, puisque moi je suis très loin par rapport à Pantin. Je trouve qu'il gère, me semble-t-il, bien la situation. Ma mère est confinée dans sa chambre maintenant depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire que elle voit les aides-soignants et sans doute les infirmières, mais personne ne se déplace dans l'EHPAD. Ce que je veux dire par là, c'est que le manque de masques. Alors là, je vais m'appuyer sur un journaliste de l'Est républicain qui s'appelle Jean-Pierre Tenou. La région beaucoup confrontée à acheter des masques. Ces masques sont arrivés à Bâle, à l'aéroport de Bâle, donc en Alsace. Et ben c'est l'État français qui a dit non, nous les réquisitionnons. Ces masques devaient servir aux EHPAD de Bourgogne-Franche-Comté pour justement aller dans les EHPAD. Il y a un moment donné, le manque de masques absolument scandaleux qui existe fait que même si on veut faire des efforts et les régions en font, les collectivités territoriales en font, c'est leur boulot, et même si on veut faire cela, on leur dit non, pas du tout, c'est pour les soignants dans les hôpitaux. Bien sûr qu'il en faut aussi pour les hôpitaux, mais il y a un moment donné, tout ça n'a plus de sens. Et je crois aussi, pour terminer sur les EHPAD, qu'à un moment donné, le confinement généralisé, que je comprends très bien dans les EHPAD, et je soutiens totalement les aides-soignants, les infirmières par rapport à tout cela, il y en a même qui vivent à plein temps, vous avez bien lu ça, hein, à plein temps depuis plus de 3 semaines, dans leur EHPAD, les aides-soignants, les infirmières. Ouais. C'est génial, c'est énorme, c'est grand, c'est gigantesque. Mais à un moment donné, il va bien falloir que les parents, les enfants que nous sommes, les petits-enfants que nous sommes, à un moment donné, par rapport à nos anciens, on puisse au moins avoir un contact relativement direct. Sinon, ça va être, si ça dure encore un certain temps, et ça risque malheureusement de durer un certain temps, il faut qu'on ait des moyens autres que Skype et autres, parce qu'à ce niveau-là, je vois ma petite maman, elle est même incapable aujourd'hui, elle a toute sa tête. Ouais. Hein. Mais au niveau des mouvements, des gestes, elle est incapable d'aller sur Skype.
Bien sûr. Voilà. Bien sûr.
Mon cas personnel est à ce niveau-là. Voilà, c'est comme ça. Hein, je raconte ça. Valérie.
Mais j'ai une amie qui a tweeté hier en disant ma grand-mère se meurt du confinement, qui est une dame qui est en EHPAD, qui s'alimentait, qui parlait et elle ne parle plus depuis mercredi dernier. Elle ne s'alimente plus. Serge Effez, qui est psychiatre et qui raconte que il a perdu sa maman et il dit c'est une grave erreur psychologique, même au nom d'une maladie, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est vrai qu'il va peut-être falloir trouver des solutions pour qu'on ne perde pas nos aînés de désespoir. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait des pièces, qu'il y ait des choses, des vitres, je ne sais pas. C'est très, très compliqué derrière des vitres. Alors, je ne sais pas si ça changera quelque chose, mais il y a un manque de personnel évident. Et il y a surtout aussi, et vous êtes nombreux à le signaler, un manque de transparence sur les chiffres et sur le déni qu'il y a eu, encore une fois, des cas de Covid dans de nombreux EHPAD. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Alexis Poulain, Pascal Bataille, Jean-Luc Benamias et Sophie de Menton. On a un auditeur qui voulait s'exprimer au 0826 300 300. C'est Samy. Bonjour Samy. Samy, vous êtes là ? Non, on n'a pas Samy. On vous écoute. Vous êtes pharmacien, c'est ça ? Oui, on vous écoute.
Oui, je suis pharmacien à Paris. Je voudrais juste pousser un petit coup de gueule par rapport à la problématique des EHPAD et dire simplement que cette problématique des EHPAD, en fait, elle reflète, c'est juste la partie émergente en fait de l'iceberg. C'est quoi ? C'est que vous avez cité tout à l'heure en fait le cas de Clamart. Clamart, il appartient en fait à un groupe qui s'appelle Corellio, 3,34 milliards. D'accord ? Donc les EHPAD sont là pour faire d'abord de la rentabilité du rendement. Je suis désolé. Et je suis entièrement solidaire et empathique en tant que soignant sur le terrain, parce que je pense que j'étais Covid, j'en suis guéri. J'ai des amis collègues qui sont Covid positifs, qui sont malades. Je suis entièrement solidaire en fait du personnel qui se fait exploiter en fait dans les EHPAD, malheureusement, et eux ils sont sur le front, sans les moyens.
Absolument.
Et je suis désolé, j'ai beaucoup aussi de désolation par rapport aux personnes âgées en fait qui paient la peau des fesses, alors que les EHPAD sont là pour le rendement. Vous savez, on est à 3 fermetures presque, ou 2,5 fermetures de pharmacie par semaine. Pourquoi ? Parce que les EHPAD s'entourent par exemple de fournisseurs pour avoir des prix sur le matériel, pour détourner en fait la clientèle. Et alors que nous, on est sur le terrain, on check les patients, on prend la température, on check les patients qui ont des symptômes Covid, on les dirige vers le 15, vers les médecins. Que font les EHPAD ? Rien. Le rendement et la rentabilité et l'argent.
Rien. Donc vous dites, vous accusez, c'est un petit peu mon coup de gueule de départ, c'est-à-dire que c'est silence, il se passe rien, quoi.
Bien sûr, bah, y a des fonds d'investissement derrière, c'est le rendement. Je suis navré. Alors qu'on a un maillage territorial. Mais c'est normal aussi, je suis désolé, je pointe aussi un peu la politique sociale. C'est que tout simplement, les enfants laissent leurs parents. Ok, on délègue aux EHPAD. Les EHPAD, ils sont pas là pour faire du social. Les EHPAD appartiennent à des groupements. C'est pour du bénéfice, je suis navré. Voilà. Nous, on fait beaucoup d'actes gratuits. Les médecins font beaucoup d'actes gratuits. Les infirmiers font beaucoup d'actes gratuits. Et on fait que ça toute la journée.
Oui, mais en même temps, quand on dit que le 15 et les hôpitaux ne prennent pas les personnes âgées, et qu'on répond aux EHPAD, ben gardez-les parce qu'on ne sait pas quoi en faire, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, mais je suis désolé, la solution de dire aux gens, c'est rester chez vous, prenez du paracétamol et attendez que ça passe, c'est pas une solution. Je suis navré. Donc du coup, aujourd'hui, on a un problème de fond. C'est qu'il faut revoir, en fait, le système. Il faut revoir, je dirais simplement de façon technique, les pôles qu'on a privatisés. On ne privatise jamais la santé. La santé doit rester quelque chose d'extrêmement régalien à tous les niveaux et au niveau de toutes les strates.
Excusez-moi, je comprends bien votre indignation. Je comprends bien votre indignation. C'est évidemment vrai que les gens cherchent à faire de l'argent. Mais tout est vrai dans ce que vous dites, sauf que là où je ne suis pas d'accord, c'est que vous pensez que l'État fait mieux. Moi, je ne pense pas. L'État aussi.
Les régions.
Dans les régions, oui, c'est bien. Mais même les régions.
Les départements,
on peut privatiser avec des cahiers des charges, etc. Je crois que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne sait pas. L'État a des gens qui n'ont pas le sens de l'entreprise, etc. Mais pour venir à ce que vous
dites, Valérie... Mais c'est pas une entreprise, la santé, justement.
Si, alors, attendez, je voudrais bien préciser avant le temps de le faire. Bien sûr que non, là où c'est une entreprise, c'est dans le management. Et si vous saviez...
On a vu ce que ça a donné dans les hôpitaux, on peut en parler.
Non, je ne parle pas du management du personnel médical. Je ne parle pas du personnel médical. Je ne parle pas de l'investissement qu'il peut y avoir. Je dis que, par exemple, je le sais, il y a eu des études de fait. Dans certains hôpitaux, vous avez... trois fois le même examen qui est refait parce qu'il y a un manque, il y a
des
administratifs qui délirent. Je vais vous donner un exemple quand même de l'hospitalisation qui réclame depuis un mois et demi, ils réclament d'avoir des Covid. Les hôpitaux ne voulaient pas transférer de malades au privé.
Madame,
c'est pas si simple.
Mais c'est pas la question. Oui, Samy, vous êtes toujours là, puis après on va passer.
Je termine là-dessus, s'il vous plaît. Madame, je respecte entièrement votre point de vue, Sophie, hein, c'est ça? Je suis désolé. Sur le terrain, je suis désolé. On ne fait pas la santé avec des tableaux Excel. On fait pas la santé avec des diagrammes. C'est un don de soi, en fait.
Mais oui.
Don de soi. Je suis inscrit dans la réserve sanitaire. C'est-à-dire, on peut m'appeler le soir pour aller au milieu de la réanimation, au milieu des Covid. J'y vais. Oui. J'y vais bénévolement. Je ne compte pas. Et ça m'énerve d'ailleurs qu'on se fasse applaudir le soir à 20h, je tiens à le souligner. Parce que je suis désolé. Oui. Il y a 3 mois, les infirmiers, les médecins, tout le monde était dans la rue. Ils se sont fait gazer. Les gens n'étaient pas là. Je suis désolé.
Merci Samy de votre intervention. Alors Alexis Poulain.
Merci Samy pour ce témoignage parce que c'est extrêmement important.
Merci parce qu'on sent l'engagement en plus de ces soignants et de ces gens comme Samy.
On ne peut pas demander à ces gens-là d'être théoriques pour que le système tienne, en fait. On leur demande d'être des héros parce qu'eux, ils ont le sens du devoir. Ils ne vont pas laisser crever les gens. Donc, ils font des choses, ils ne sont plus d'accord parce qu'à un moment, ils savent que même en faisant tout ce qu'ils peuvent, ils font un sale boulot. Et ils en ont marre de faire un sale boulot. Ça fait des mois, des années qu'ils disent qu'ils en ont marre de faire un sale boulot. Et tout le problème vient justement du néo-management, ce management public qui fait qu'on manage n'importe comment, effectivement. Vous avez des cadres de santé qui sont là pour du profit, pour mettre la pression, pour des tableaux Excel, parce qu'il fallait faire un hôpital de flux, et des soignants qui font face à des murs, qui sont sous-équipés, qui sont mal encadrés et mal aimés. Et alors, c'est pour ça que, effectivement, les applaudissements, à un moment, ça suffit. Et puis, sur les EHPAD, le système privé ou pas, ça dépend. Vous avez des très bons EHPAD qui coûtent très cher, ou des EHPAD publics qui sont très bien, mais un des grands problèmes de la grande dépendance, c'est que c'est devenu un produit financier et qu'on traite la silver economy de ça comme simplement un produit d'investissement financier et pas de l'humain. Aujourd'hui, c'est cette crise du Covid, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'il y a deux choses qu'on a complètement oubliées dans nos sociétés qui marchent à l'envers. Un, c'est l'humain, et deux, c'est le temps long, la planification. Donc qu'est-ce qu'on veut faire si on veut un monde d'après qui ne soit pas le pire du monde d'avant ? C'est redonner les moyens au public, donc l'État, les régions, les communes, pour pouvoir planifier, parce qu'eux s'en foutent du profit de court terme. Eux, ils sont là pour que les communautés, eh bien, elles fassent de la solidarité sur le long terme. Et puis la deuxième chose, c'est mettre l'humain, arrêter avec ces politiques de ressources humaines, avec ce néo-management pourri. Je vous invite tous à lire Johan Chapoutot, historien sur Libre d'obéir, qui explique comment finalement les méthodes nazisme de management ont perduré dans les années 60 et jusqu'à présent, et qu'on fait n'importe quoi. C'est ce qu'on a vu avec l'ARS du Grand Est, qui disait c'est pas grave, on va continuer avec la suppression des lits, parce qu'on en est là, un système avec des poulets qui ont le cou coupé et qui courent sans savoir pourquoi.
Et vous oubliez,
aujourd'hui on a
le temps
de s'arrêter, tant mieux, arrêtons-nous et remettons l'humain, la solidarité et le temps long au cœur de l'action publique, et y compris dans des secteurs qui doivent être enlevés effectivement à la sphère financière.
Alors, qui veut je crois que Pascal Bataille.
Moi, ce que je souscris à la virgule près à tout ce qu'elle vient de dire Alexis, bien évidemment. Mais on en revient finalement à un seul et vrai problème, c'est à quel moment l'État va mettre les bons moyens en face des bons besoins. Et aujourd'hui, on sait que les moyens, ils sont les besoins, ils sont très clairs. C'est des masques et des tests. Pourquoi des pays auxquels on ne devrait pas avoir grand-chose à envier comme l'Allemagne, aujourd'hui, arrivent à pratiquer environ 100 000 tests par jour ? Pourquoi, facile. Quand on veut... Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu.
J'ai dit facile, au moins 100 000.
Oui, au moins 100 000. Pourquoi, quand on veut s'en donner les moyens, comme à Marseille, des hôpitaux peuvent pratiquer les tests ? Pourquoi des centaines de laboratoires ont proposé leurs ressources pour faire des tests, et pourquoi l'État ne donne pas l'autorisation de pratiquer ces tests ? Parce que quand on veut, quand on parle de remettre de l'humain, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, ou Alexis, pour aller... nos personnes âgées, c'est pas forcément en mettant des vitres qu'on va résoudre leur solitude, parce que tant qu'on ne peut pas aller les voir, on ne pourra pas résoudre le problème de la solitude. Il faut aujourd'hui se préoccuper très rapidement du déconfinement. Et le déconfinement, il ne peut, parce qu'il est aussi vital en termes économiques. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est quand même une donnée essentielle, parce qu'il y aura aussi beaucoup de morts à cause des problématiques économiques que va occasionner cette crise. Et donc, aujourd'hui, quand est-ce que les citoyens de ce pays vont demander clairement et nettement à nos gouvernants de mettre les moyens en face des besoins et de se bouger un petit peu le cul, pardonnez-moi, pour faire ce que d'autres pays réussissent très bien à faire ? Pourquoi nous, en France, on ne peut pas faire ce que fait l'Allemagne, notre voisin, sur lequel on calque beaucoup de nos politiques ? Pourquoi on n'est pas capable de le faire ?
Allez, on va marquer une toute petite pause. On se retrouve dans un instant et on va parler du relâchement du confinement. Les Français sont-ils indisciplinés ? Avec vous, 826-300-300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercov. Vous pouvez nous suivre sur le Facebook de Sud Radio, sur YouTube également. Je suis avec Alexis Poulain, Pascal Bataille, Jean-Luc Benamias et Sophie de Menton. Alors, Pascal Bataille, vous nous disiez que vous aviez vu arriver dans le sud-ouest des Parisiens. Alors pourtant, effectivement, il y a eu vendredi beaucoup de contrôles, et Citadins nous montraient que finalement, il n'y avait pas eu tellement de circulation sur les routes, et c'est ce que Christophe Castaner hier a confirmé hier au JT de 20h. Maintenant, c'est vrai que les images dans les grandes villes ont montré beaucoup de gens dans les rues en train de prendre le soleil.
Oui, je ne sais pas comment fonctionne Citadin, mais effectivement, moi, j'ai vu des images, des photos et des vidéos du périphérique vendredi soir, avec des départs massifs vers la Normandie.
Oui,
mais moi, je me suis fait avoir par ces images. J'ai même tweeté, mon tweet, parce que, en fait, c'était des contrôles qui étaient faits et qui ralentissaient. Mais après, qui ont créé des embouteillages sur l'entrée, et c'était des gens qui rentraient de leur boulot. Mais quand on regardait l'ensemble de la France, il n'y avait pas spécialement
En tout cas, ils sont peut-être pas partis, mais ils sont arrivés, peut-être aussi massivement, que lors d'un départ en vacances de Pâques classique, mais effectivement.
Vous avez vu des résidences secondaires s'ouvrir.
Sur la presqu'île, on a vu du Cap Ferré, où je réside, on a vu énormément de voitures arriver ce week-end.
Alors peut-être de Bordeaux ou d'autres régions de France.
S'ouvrir. Il y a beaucoup de plaques d'immatriculation de l'Île-de-France. Hein. Mais encore une fois, les gens de Bordeaux n'ont pas plus de raisons de venir que ceux de Paris. Hein. Les gens de Bordeaux doivent rester à Bordeaux.
Il y a une question que je me pose, si vous permettez, à propos de ça, c'est que, et ça rejoint, parce qu'on ne peut pas séparer tous les sujets, ça rejoint ce que nous dit Oppressée Maman sur le manque d'humanité, sur le confinement, etc. Il y a un moment où il y a quand même une liberté individuelle, même devant quelque chose d'aussi grave que ce que nous vivons actuellement, et que on peut pas par ordre indéfiniment confiner les gens. Et alors je me posais la question, mais simplement je me la posais, vous avez des gens qui sont confinés chez eux avec leurs enfants depuis 3 semaines, donc a priori il n'y a pas de risque, mettre leurs enfants dans une voiture sans s'arrêter et les remettre dans un endroit où ils vont rester beaucoup plus longtemps, un endroit clos où ils vont également être confinés. Est-ce qu'il y a un risque terrible? Je pose la question. Et ensuite, jusqu'où va cette interdiction? J'ai vu, moi, j'ai eu des échos invraisemblables de drones au-dessus des gens, d'un vieux monsieur qui promenait son chat devant chez lui et qui prenait une amende de 120 euros, il avait 82 ans, que je connais.
135.
J'ai vu 135, des gens qu'on faisait rentrer. On n'a plus qu'une heure, il faut les dates, etc. On file des PV toute la journée. Je pense que c'est pas non plus tenable. Donc, je pense qu'il faut appliquer les règles avec intelligence, que c'est très difficile, que il peut pas y avoir une règle uniforme pour tout le monde. Que oui, la question confinement, c'est confinement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et tous ces gens qui travaillent, vous faites quoi, Valérie? La contradiction absolue de ces gens qui se déplacent, qui vont à l'EHPAD, qui vont à l'hôpital, qui vont à l'épicerie, qui vont à la pharmacie, qui vont livrer le courrier. Je veux dire, on devient fou dans ces injonctions contradictoires. Je pense qu'il faut laisser place à un peu d'intelligence, alors, un peu de liberté individuelle et l'intelligence du contrôle. Là, on est en train d'avoir des... Maintenant, alors voilà, on a un ordre de sortie, il ne faut pas que ce soit écrit au crayon. Ah, vous avez dépassé 5 minutes, vous êtes allé à quelle épicerie? Mais on devient fou! Alors, c'est vrai.
Oui. Bon, si vous voulez.
On devient fou. Donc, je pense qu'il faut un peu faire confiance aux gens aussi. Alors, maintenant, qu'il y ait des quartiers, des endroits admissibles, oui.
Bah, hier, le journal nous a montré le 7e arrondissement que vous connaissez bien, qui était noir de monde. Donc, on a eu un policier qui nous parlait effectivement des cités qui sont difficiles à confiner. Mais hier, le 7e arrondissement était particulièrement chargé. Oui. Alors, Jean-Luc Benhamias.
Les images qu'on a vues le plus hier, c'est la rue Montorgueil, qui était ouverte. Mais clairement, la rue Montorgueil, que je connais un peu, j'ai vécu à Paris il y a très longtemps. Il y a des commerces partout, qui sont évidemment, c'est des commerces de bouche, qui sont ouverts. Je pense que à ce niveau-là, et pour une fois, je suis d'accord avec Sophie, il y a des gens qui bossent, quoi. Et à un moment donné, le dimanche, peut-être qu'ils n'étaient pas en train de bosser, et ils sont allés faire les courses de la semaine. Et alors, c'est compliqué parce que les injonctions contradictoires qui fait qu'il va falloir de plus en plus retourner au travail. C'est bien ce que j'entends et ce que je vois. Et en même temps, retourner au travail, pas uniquement pour les histoires de santé, hein, d'aller travailler dans les EHPAD ou d'aller travailler dans les hôpitaux. Non, rouvrir un certain nombre de secteurs économiques, ce qui me paraît relativement utile et normal. Et oui, dans ces cas-là, comment la police nationale qui fait son boulot peut réussir à être équitable par rapport à ça? C'est extrêmement compliqué. Moi qui ai la chance d'être là dans une maison de famille dans la Drôme, évidemment que le confinement, je le vis sur plus un kilomètre carré. Alors, si vous voulez, c'est beaucoup moins difficile, mais je comprends, moi, les familles en ville, que ce soit à Marseille, Paris, Bordeaux, Lyon, qui, à un moment donné, surtout quand ils ont de jeunes enfants ou des adolescents, à un moment donné, se disent « Bon, on va sortir une heure, on va sortir une heure et demie. » Ça me paraît extrêmement normal. Et je pense, moi, que les Françaises et les Français, hein, comme dans beaucoup de pays, ont compris qu'il fallait faire extrêmement attention. Je pense que à part des fous furieux, ça existe, ou des folles furieuses, le reste des gens ont vraiment compris la notion de toutes les garanties qu'on doit prendre, et on va arriver à une chose, vous le savez tous, dès qu'on aura suffisamment de masques. Quand le déconfinement va commencer, eh bien, tout le monde mettra un masque, ça me paraît extrêmement normal, s'ils existent.
Un masque qui ne servait à rien il y a trois semaines, je vous le rappelle.
C'est moi qu'on puisse dire, Valérie.
Qui voulait intervenir?
En France, Valérie, tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit.
et inversement.
Oui, mais on a un virus qui est extrêmement contagieux. Un virus qui est extrêmement contagieux. Sortir une heure pour aller se promener, pourquoi pas. Hier, j'ai vu un tweet de quelqu'un qui expliquait, un policier qui interpellait, qui contrôlait quelqu'un et qui disait, attendez, je sais plus laquelle parce que j'ai fait 3 attestations pour pouvoir rester longtemps plus longtemps. Donc, il avait rempli 3 heures différentes. Donc, les Français sont malins.
Et aujourd'hui, il faut souligner aujourd'hui qu'il y a l'attestation numérique qui est enfin disponible.
Oui, absolument. Oui. Alors moi, j'ai pas compris, je suis désolée, il y a marqué le QR code. Oui. J'ai dit à un copain que je pensais que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un QR code, ni surtout comment on flash le QR code. Je sais pas ce que vous en pensez.
Il se génère, à partir du moment où on remplit, il se génère et c'est aux policiers après qui vont pouvoir flasher le QR code.
Oh là là là.
Heureusement que vous êtes là.
Mais parce que ça permet de pas justement remplir le truc avant que les policiers arrivent, ou de changer d'heure, etc. Mais de toute façon, je pense que ce confinement, effectivement, on parle de déconfinement, on a un autre problème devant nous qui est la crise économique. Et l'État et les gestionnaires de l'État, surtout à Bercy, sont en train de se rendre compte que ça va coûter extrêmement cher. Il va falloir trouver des solutions. Et la solution, elle est simple. Elle a été montrée par la Corée du Sud et d'autres pays. C'est des tests massifs et des masques. Et des gens qui retournent à une vie, pas normale, bien entendu, mais à une vie active. On va pas pouvoir en faire l'économie. Donc, quand j'entends que les masques vont arriver, alors on attend toujours, alors que l'Italie, ça y est, commence à distribuer gratuitement des masques aux populations, l'Italie qui a arrêté l'économie pendant une semaine et plus, parce qu'il n'y avait plus le choix tellement l'ampleur de l'épidémie était énorme. Nous, on doit absolument éviter ça. Et je pense que il va falloir revenir à la raison et dire, oui, il va falloir protéger tout le monde, il va falloir tester tout le monde, ça va prendre du temps, ça va coûter cher, mais c'est la seule façon, si on ne veut pas que ça coûte encore plus cher, par les faillites nombreuses des PME qui ne vont pas pouvoir se remettre debout après ça.
Voilà qui est bien dit.
Oui. Oui, tout à fait.
Oui, non, tout à fait.
Et on n'a pas l'impression, on n'est pas évidemment dans les couloirs ou encore moins dans le secret des cabinets et des bureaux, mais on n'a pas l'impression, là encore, que le gouvernement prend toute la mesure et toute l'importance de la préparation de ce déconfinement, ou en tout cas, on ne nous parle pas de façon claire de ça. Là encore, on nous prend pour des enfants, comme on l'a fait depuis le début de cette crise.
Est-ce que c'est
pas trop tôt pour déjà en parler, c'est surtout pas trop tôt pour le préparer de façon massive et organisée et structurée. Et si on nous avait dit plus tôt que les masques étaient importants, on n'en aurait pas eu davantage, on est bien d'accord. Mais on aurait pu très vite, peut-être, parce que le système d'aide français a montré, là encore, depuis un mois et demi, à quel point il était vivace et astucieux et important, on aurait pu s'en fabriquer comme beaucoup le font, on aurait pu en tout cas sortir tout de suite pour certains avec des bouts de tissu sur le visage, etc., et certainement contaminer beaucoup moins. Là encore, le mensonge d'État qui a été mise en œuvre au sujet de ces masques a été catastrophique. Donc aujourd'hui, il faut dire clairement aux Français, on va devoir déconfiner, on va devoir déconfiner et ça va passer par telle et telle étape. Le port des masques sera rendu obligatoire, il faudra des tests, il faudra respecter la distanciation sociale, etc.
Pascal, on n'en est pas encore au déconfinement. Moi, la semaine dernière, j'avais eu un coup de gueule sur ce mot de déconfinement qui avait été prononcé. Pardon ? Mais on n'en est pas à la préparation. Pas à la communication. Je pense, moi, que ce mot de déconfinement a été dramatique sur les conséquences.
Valérie,
je comprends pas ce que vous voulez dire.
Je veux dire que le mot de déconfinement qui a été prononcé par le Premier ministre, on lui posait la question, c'est pas lui qui l'a évoqué, a fait croire aux Français que l'épidémie n'était plus là. Or, l'épidémie, elle est encore là et qu'il faut absolument faire attention et que ce relâchement qu'il y a eu dans les comportements, il est dû à ce mot de déconfinement. Que le gouvernement l'envisage, c'est une chose.
Parce qu'on parle pas clairement, c'est parce que au lieu de dire on va déconfiner à partir de telle date et voilà comment ça va se passer, on continue de nous entretenir dans des chimères de confinement qui va durer une semaine de plus ou 15 jours de plus. Pourquoi on ne nous dit pas? Parce que c'est on doit savoir aujourd'hui quand même clairement au sommet de l'État combien de temps doit encore durer le confinement pour arriver à faire passer le pacte de l'épidémie. Je pense qu'aujourd'hui en tout cas il y a un manque d'anticipation là encore qui est le gros problème des Français depuis le début de cette crise.
Jean-Luc, Jean-Luc
Bénard. Le nombre de ministres, je vais les citer, hein, qui nous ont dit qu'il fallait retourner au travail, Madame Pénicaud. Monsieur Blanquer, qui dit le pour et son contraire absolument toutes les demi-journées, par rapport au bac, par rapport au retour des enfants dans les écoles, par rapport à tout ça. Tout ça pousse évidemment les gens à se dire, bon, bah, à un moment donné, on va vers le déconfinement, je sais pas quand, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, j'en sais rien. Mais tout ça est contradictoire, d'une complexité absolue. Et moi, je comprends nos concitoyens. Citoyens qui, à un moment donné, se disent, bon, ben, ok, mais je le répète, je le redis, je pense qu'une très grande majorité de nos concitoyens ont compris les gestes barrières, complètement compris tout cela.
Alors, on a rapidement un auditeur, Jean-Paul est en ligne avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Esper, bonjour à tous.
Bonjour.
Mais écoutez, je voudrais vous dire que pour une fois, je ne suis pas d'accord avec vous, Madame. Je vous ai entendu dire que le mot confinement, j'ai l'impression que vous avez fait un peu du cibet. Et
merci.
De mots,
gentil, merci.
En disant ça aux Français. parce que je pense que les Français s'informent régulièrement par vous ou par d'autres médias et savent très bien ce qu'il en est. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que je suis artisan. Et tous les jours, depuis le début du mois, les artisans comme nous, avant, c'était marche ou crève, maintenant c'est marche et crève. Parce qu'on n'a pas de masque, on n'a rien, et pourtant il faut bien qu'on aille à travailler.
Qu'est-ce que vous faites comme...
Je suis dans le bâtiment. Et tout ce qui est mis en place est très compliqué à obtenir. Et je crois que du reste, personne n'a actuellement rien obtenu encore. Voilà, donc si vous n'allez pas sur les chantiers sur lesquels vous pouvez vous rendre, vous ne touchez pas un radis, comme on dit, voyez. Cela, c'est très compliqué. On croise des personnes sur notre chemin, on croise des policiers qui nous contrôlent, et ainsi de suite. Toute notre vie est très compliquée maintenant.
Tout à fait d'accord avec vous, monsieur.
Et pourtant, il faut qu'on continue à travailler. C'est pour ça que ce confinement maintenant, c'est, à mon avis, de la manière dont c'est géré, une connerie. Et je n'accepterai pas de payer, des sommes conséquentes, alors que je suis obligé d'aller travailler sans masque, sans test et sans rien. Il arrive un moment où ça suffit. On ne peut pas tout dire et son contraire sans arrêt. Vous comprenez?
Tout à fait d'accord, monsieur. Vous avez mille fois raison.
J'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Jean-Paul, il nous reste à peine une minute. Qui veut réagir? Oui, Alexis.
Il faut arrêter de traiter les gens comme des enfants. On va vivre avec ce virus. Donc on va être obligé de sortir. Oui. Ce virus, il est là pour rester. Il y aura d'autres vagues épidémiques. Donc il faut se préparer et simplement dire, tant qu'il n'y a pas de vaccin, on va vivre avec ce virus. Et puis d'autres, cette pandémie, c'est la première grande pandémie du 21e siècle, mais ça va être des choses qui vont se multiplier, comme les catastrophes climatiques. Donc de toute façon, on est obligé de s'adapter. Et arrêter à chaque fois l'activité humaine, ça ne va pas être possible. Donc on doit apprendre effectivement à changer certains comportements et réapprendre la responsabilité individuelle. Et ça, c'est pas en infantilisant les gens qu'on va réussir. Non, il faut les responsabiliser, il faut leur faire comprendre, et puis dire bah maintenant, oui, effectivement, vous allez sortir, mais vous allez vivre avec ce virus pendant encore des mois, peut-être même des années. Voilà.
Bah alors, pourquoi on a confiné?
Parce qu'il fallait, pour éviter un pic pandémique tel que là, on aurait eu beaucoup plus de morts, on multipliait par 10 les chiffres. Donc effectivement, la seule solution, vu qu'on avait été pas préparé sans test, sans masque, on était obligé de confiner pour justement éviter ce pic épidémique. Maintenant qu'on va enfin s'équiper, puisqu'on commande des milliards de masques à la Chine, qu'on va les produire en région parisienne et ailleurs, on va peut-être commencer à être autosuffisant et pouvoir s'équiper.
Merci à tous les quatre, c'est toujours trop court, on a toujours envie de continuer, mais le débat continue sur Sud Radio et André Bercoff est là dans tous ses états et en pleine forme avec vous dans quelques instants. Très bonne journée à tous à l'écoute de Sud Radio et merci encore à vous d'être aussi nombreux à nous écouter. Très bonne journée.